Alors il faut lire la Bible. Ces mots qui sont prononcés en Église sonnent justes, au sens où je pense que personne ne lynchera celui qui les prononce, enfin, j'espère. Au sens où peu oseraient sans doute dire ouvertement le contraire, c'est ce qu'il faut dire. Il faut lire la Bible. Et en même temps, ce « il faut », aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour un bon nombre de personnes, ce « il faut », même prononcé en Église, sonne aussi un peu faux. Tant il met d'emblée aux prises avec le devoir, et un devoir dont on a envie de se dire que, pour le coup, il faudrait, si on pouvait, en faire l'économie. Je vous propose d'ouvrir donc cette Bible, ce recueil de chants qui est, et puis dans la Bible, le recueil de chants qui est au milieu, presque, le livre des psaumes. Et le livre donne à entendre les cris de ceux qui ont espéré en Yahweh, et c'est aussi le livre biblique le plus volumineux. Et je voudrais lire les premiers mots, l'ouverture du premier chant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Et puis plus loin, c'est surtout sur ce deuxième texte que je vais m'attarder, au 119e chant, psaume 119, qui est le psaume le plus volumineux, en fait, du recueil, on entend, et je voulais les mettre en écho, on entend les paroles suivantes. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Et j'aurais pu lire l'ensemble du psaume, mais voilà, vous savez qu'il est volumineux, donc je m'en tiens là, mais voilà, j'ai le reste en tête et j'en citerai des extraits tout à l'heure. Donc, deux psaumes qui se font écho, et l'écho se fait au moins à deux niveaux. D'abord, et c'est très, très évident, c'est la mention du bonheur. Heureux, c'est un mot qui est mis en avant, et c'est en fait, il est physiquement mis en avant, parce que quand on lit ces psaumes, autant en français qu'en hébreu, c'est le premier mot qu'on lit. Et puis, le deuxième écho, eh bien, c'est celui de la loi de l'Éternel, et aujourd'hui on dirait bien de la Bible. Et le psaume 119, en fait, si vous êtes familier de la Bible, vous savez que c'est une célébration de la Bible, puisque chacune de ces phrases, ou presque, l'évoque, il fait référence à l'aide de multiples expressions qui sont synonymes. La loi de l'Éternel, ses préceptes. Alors, dans le verset 3, c'est moins apparent, mais les chemins que Dieu leur a tracés, c'est vraisemblablement ça. Et puis, on trouverait, si on continue, ses décrets, ses ordonnances, ses témoignages, ses commandements, etc. Donc, nous lisons que celui qui est attentif à la loi de l'Éternel est heureux. Il est qualifié d'heureux. Avant d'aller plus loin, je voudrais relever trois choses, nous rendre conscients de trois choses. La première, c'est que l'auteur du psaume, le psalmiste, n'a pas la... Je ne sais pas ce que vous avez en tête quand vous lisez ça, mais il n'a sans doute pas en tête la même chose que vous avez en tête, que nous avons en tête, parce qu'il n'a pas la facilité de consultation biblique qui est la nôtre. Voilà ce qu'il avait en tête, enfin ça c'est ce qu'il en reste aujourd'hui, donc c'est un peu abîmé, et c'est plutôt des rouleaux. Il y a des rouleaux où on ne met pas, d'ailleurs, on met pas tout un livre biblique, parce que parfois, il faut plusieurs rouleaux pour un seul livre. Autrement dit, il n'a pas d'application sur un smartphone. Il n'a pas de tablette. Enfin, il y a des tablettes, mais ce n'est pas les mêmes que les nôtres. Il n'a pas de livre aisément transportable, à portée de main, sur l'étagère. Et à l'époque, peu savent lire. Et peu, finalement bien peu, ont des livres ou des rouleaux. Et du coup, c'est frappant de lire ce psaume, parce qu'on mesure l'attachement qu'il a au livre, alors que ce n'est pas si simple à son époque. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, le psalmiste n'a pas non plus en main la même Bible, le même contenu biblique que ce que nous avons. Parce que quand il lit la loi de l'Éternel, quand il parle de la loi de l'Éternel, il ne pense pas à ce que nous avons dans nos Bibles, ça c'est une façon de la représenter. Il ne pense pas à Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, etc., les livres des psaumes, etc., les prophètes Ésaïe, Malachie, et puis le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc., jusqu'à l'Apocalypse. Non, il ne pense pas à ça. Il pense plutôt à ça. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Autrement dit, déjà un corpus qui est moins étendu. Et puis, je ne sais pas si vous les avez fréquentés, ces livres, mais si vous les avez fréquentés ou si vous avez essayé de les fréquenter, ce sont des textes qui ne sont pas beaucoup lus aujourd'hui. Enfin, c'est l'hypothèse que je fais. Et des textes qui paraissent plutôt, finalement, assez arides. Ça se passe au désert. Pas très attirants, des lois. Bref, ce n'est pas des textes très, très vendeurs. Tout ça pour revenir du coup à ce que nous entendons, parce que pour lui, étonnamment, ce sont des textes qui ouvrent au bonheur. On peut être étonné, tant le bonheur aujourd'hui est rattaché à des choses agréables, des choses qui s'imposent à nos sens comme plaisant, fun. Alors rattacher le bonheur à la Bible, et puis surtout les rattacher à ces premiers livres bibliques qui sont déjà difficilement disponibles et qui nous paraissent arides, alors on peut être intrigué, étonné. Mais c'est bien qu'on soit, enfin je crois que c'est bien qu'on soit intrigué et peut-être étonné, parce que peut-être que ça nous permet de sentir, d'entendre, peut-être que le bonheur que le psalmiste a en tête, c'est peut-être pas. Ce n'est peut-être pas que un bonheur subjectif. Je me sens bien. Je m'éclate. C'est le pied, quoi. Et je crois qu'en lisant le psaume, on s'en rend compte. Le psaume 1, donc il est projeté maintenant en entier, distingue deux voies de chemin. La voie du méchant, j'ai pas tout surligné, hein, mais... Un méchant qui peut-être en fait est très heureux subjectivement. Il est là au début avec son groupe d'amis. C'est le conseil des méchants, donc il y a toute une équipe, là, il y a tout un petit groupe. Son groupe de fêtards, son groupe de moqueurs, qui regarde un peu de loin celui qui fait autrement, et qui emploie des mots que je ne vais pas employer ici. J'ai failli, c'est pour ça que... Voilà, donc il est heureux cet homme, a priori. Enfin, il peut très bien être heureux. Et il est en même temps dans une voie qui, dit l'auteur, mène à la ruine. Et puis, à contrario, il y a la voie de celui qui écoute la loi de l'Éternel et qui, à terme, c'est la fin, ici, à terme sera pris en compte par Yahweh. Et c'est cet homme-là qui sera heureux. C'est même pas ça, c'est cet homme-là qui est heureux. Et si on devait reprendre le psaume 119, alors je ne vais pas le faire en détail, il esquisse en fait, mais de manière moins... C'est pas, le psaume 1, c'est le contraste entre les deux personnages. Le psaume 119 ne fait pas le contraste tout le temps, il le fait de temps en temps. Il esquisse le même contraste entre celui qui médite la Bible, celui-celle qui médite la Bible et le méchant. Et qui nous dit aussi que nous entendons là que ce méditant de la Bible, jour et nuit, hein, c'est encore moins fun. C'est lui, c'est elle qui est heureux, qui est heureuse. Donc, bonheur objectif et pas simplement je me sens bien, I feel good, c'est parfait, c'est le top, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que celui qui est attentif à la loi de l'Éternel est donc qualifié d'heureux. Autrement dit, des choses comme des lois, des décrets, des préceptes, des commandements contribuent, aux yeux du psalmiste, au bonheur. Bon, j'en fais un petit peu des tonnes, mais vous me direz que c'est peut-être pas si extérieur à notre expérience ordinaire. Imaginez que vous deviez venir au culte, alors c'est plus le cas, mais vous allez devoir partir tout à l'heure. Imaginez que le code de la route n'existe pas. Bon, c'est dimanche, c'est plus facile, mais imaginez qu'il n'y ait pas de loi, de préceptes pour réguler le code de la route. Et j'étais intéressé, je ne pensais pas trouver ça là, mais je lisais la semaine dernière un bouquin. Le voici. Et il raconte donc, je pense que c'est un entrepreneur, ou je ne sais pas trop, enfin bref. Il a travaillé, il s'est trouvé expatrié en Égypte. Et il prend la mesure de la valeur de la loi française. Non pas que la loi française est meilleure par rapport aux autres, mais bon, il fait le contraste entre ce qu'il vit quotidiennement et ce qui se passe ordinairement en France. Il écrit la chose suivante. Ce qu'on découvre bien vite en vivant à l'étranger, c'est que vivre en France nous protège de nombreuses plaies et de nombreux péchés. En France, il est rare d'être confronté violemment au travail des enfants. En Égypte, on les voit servir du pain, balayer les routes, trier les déchets dans les caniveaux et réparer des voitures. En France, il est rare d'être face à un fonctionnaire qui ne semble pas vouloir faire son travail tant qu'il n'a pas reçu un billet, ou face à un policier qui souligne que sans le reçu, si vous ne donnez pas le reçu, l'amende sera moins chère. En France, le marché noir est extrêmement limité, en dehors de certains produits interdits, comme la drogue ou certaines armes. En Égypte, jusqu'à l'obtention par le pays d'une aide du FMI en novembre 2016, il était quasiment impossible d'obtenir des dollars ou des euros de manière officielle, même à la banque, en échange de livres égyptiennes. Les particuliers et entreprises qui avaient besoin de devises étrangères passaient donc au marché noir, qui leur fournissait à un taux élevé. Pour illustrer que la loi a ses intérêts. Et peut-être, ça, alors, c'est probablement pas dans ce sens que le psalmiste prononçait le mot, mais je crois qu'on peut être sensible du coup à un des synonymes qu'emploie le psaume 119 quand il parle de la loi, des préceptes. Il emploie à un moment donné le mot ordonnance. Alors, c'est sans doute dans le sens des ordres, mais bon. Quand on l'entend en français, donc quand on entend commandement et ordre, ça ne nous plaît pas, mais quand on entend ordonnance, ça peut avoir des connotations qui nous aident à prendre la mesure que finalement, c'est pas si mal d'avoir des ordonnances de temps en temps. Même si on a du mal parfois à consentir à prendre les médicaments qui nous sont prescrits par l'ordonnance. Heureux pourtant l'enfant qui a avalé ce sirop si désagréable. J'aimais bien le Topexil, il y avait du caramel, je crois, à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais il n'y avait pas que le Topexil, hélas. Je pouvais presque en boire, même si j'étais pas malade, le Topexil. C'est agréable. Heureux l'enfant qui a avalé la pilule qui est difficile à passer, ou l'adulte qui aura avalé l'abominable breuvage pour pouvoir faire la coloscopie. Nous sentons bien que c'est quand même pour notre bien. J'aime bien, le dessin de Piem, qui est là. Voilà, donc il va à l'école. École pour mon bien. Bon, traîne un peu les pattes. Et tant pis si ça passe pas bien, mais oui, il faut sans doute lire la Bible pour notre bien. Comme il faut manger, comme il faut boire, ça dépend comment je le dis. Si je vous dis il faut manger, ben oui, il faut manger. Si je dis il faut manger. Ou bien comme il faut aller à l'école pour notre bien, pour vivre, simplement. Et on le sent bien quand on nous en prive de manger ou de boire, qu'on nous prive de boire, qu'on nous prive d'eau, qu'on nous prive de nourriture, qu'on nous prive d'éducation. Bon, ça on le sent moins peut-être. mais qu'on nous confine. C'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Et nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui s'impose de l'ordre de la privation. Nous sentons bien qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. Et alors on va concéder quand même qu'il faut, même si ça sonne un peu résigné, parce que ça consonne avec notre expérience du réel. Oui, il faut. Alors vous me direz à juste titre, enfin je serai d'accord avec vous, que l'absence de nourriture a des effets plus flagrants que l'absence de Bible, l'absence d'écoute de la Bible. Oui, dans un certain sens. Le chrétien qui se passe de Bible n'a pas forcément l'impression qu'il s'en porte plus mal, parfois. Alors peut-être qu'il n'est pas tout à fait tranquille avec sa conscience, surtout si c'est juste après aujourd'hui où j'ai affiché « il faut lire la Bible ». Confiant quand même qu'il se dit à l'égard de Dieu, il dit au Seigneur « je suis confiant en toi, il m'aime, il m'a tant donné », c'était la joie, ok. Mais c'est quand même la question de l'obéissance qui est posée. Donc, on n'est pas toujours à l'aise de négliger un peu la Bible ou la prière. Ça, c'est pour le chrétien. Pour les personnes extérieures à la Bible, alors la Bible ou Dieu, leur manqueront, lui manquera sans doute encore moins. Il n'aura pas beaucoup de problèmes de conscience à ce propos, j'imagine. Alors, j'ai pas de réponse magique, hein, mais j'ai envie de dire, mais pour autant, est-ce qu'il y a du sens à vivre ? Est-ce qu'il y a du sens à être ? Alors en Occident, nous vivons dans une certaine abondance, et c'est super parce qu'on peut maintenant visionner des séries télé à longueur de journée dans son jacuzzi. C'est super. Est-ce que c'est suffisant pour répondre à nos aspirations ? Est-ce que cette abondance dans la vie, c'est la vie en abondance ? Est-ce que ma vie fait sens ? Et cette dimension du sens, mais c'est à elle que la Bible nous rapporte. Et c'est vers cette dimension que la Bible nous engage. Alors je dirais à ceux qui sont extérieurs à la foi, mais que vous adoptiez ou non la Bible, c'est votre choix, reconnaissons-lui au moins cet intérêt. Donc là, il faut lire la Bible. Pour autant, je ne voudrais pas m'en tenir là, et je voudrais dire que la lecture de ces extraits de psaumes nous fait bien sentir aussi que ce n'est pas qu'une question de devoir. Un devoir auquel on consentira en traînant plus ou moins les pieds. En tout cas, ce n'est pas du tout ça pour le psalmiste. Et c'est ça qui m'a frappé, qui m'a touché en lisant ce psaume. On le sent déjà au psaume 1, alors qui se présente lui un petit peu de manière très, très générale, comme si c'était vrai pour tous les hommes, toutes les femmes, comme une espèce d'orientation de sagesse qui serait énoncée pour tous. Heureux. Heureux. Alors j'ai dit que ce bonheur avait une dimension sans doute largement objective, mais c'est juste que le psalmiste ne se sentient pas à ça. Toute sa joie, il la met maintenant. Ce n'est pas simplement au jugement dernier que les choses se passent, c'est toute sa joie. Il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Donc j'entends là tout un retentissement intérieur de la lecture de la Bible pour lui. Alors c'est écrit de manière un peu générale, une orientation de sagesse, mais le psaume 119, lui, va plus loin. À mon sens, parce que lui, je ne sais pas comment. Alors peut-être ça ne se voit juste pas ici. C'est dommage. Mais il se présente quand même largement comme un témoignage. C'est un psaume qui est très largement dit à la première du singulier. Alors, ça n'apparaît pas là. Je m'en rends compte en le projetant, donc sinon j'aurais anticipé, mais bon, voilà. Au premier mot, là aussi, il s'agit de bonheur, c'est répété deux fois. Mais si on continuait la lecture, on retrouverait cette joie que le psaume 1 avait mentionné, verset 14, et là on est bien à la première. C'est un jeu qui parle. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. Et si on continuait, on trouverait des passages comme les suivants. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tes préceptes font mes délices. Je m'y plais. Je la suivrai de tout mon cœur. Non, j'ai dû rater quelque chose. Oh que j'aime ta loi. Je la médite tout le jour. Que j'aime ta loi. Moi j'aime tes commandements plus que l'or, oui plus que l'or fin. Et j'ai pris quelques versets, mais on en trouverait facilement d'autres. C'est des exemples. Donc j'entends là, entendons là cet amour de la Bible, cet amour qui est dit à la première du singulier. Il n'est pas obligé de le dire. Il n'est pas obligé d'écrire une chanson, un psaume, une chanson, en disant son amour pour la Bible. Il ne fait pas ça pour la galerie, pour le fun, en disant c'est ça qu'il faut dire. Comme ça, tout le monde me regardera. C'est vrai, c'est un gars bien, tu as écrit un beau psaume. Non, c'est pas ça. Il écrit ça parce que ça lui vient du cœur. Il fait part de cet amour, il fait part de cette soif de la Bible. Et tout se passe aussi dans le psaume, comme s'il trouvait une résonance entre ce qui le fait vivre, les valeurs qui comptent, le bien, et ce qu'il découvre en lisant la Bible. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. La vie, et là, voilà, tu me vivifies. La vie, dans ce qu'elle a de tout, de vrai, de plein, tient pour lui à cet alignement avec la Bible. Et à contrario, le mal tient à cet écart avec la parole. Et ça, ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui témoigne d'un rapport contraint. C'est quelqu'un qui témoigne simplement de ce qu'il vit, et de ce qu'il croit vrai pour tout le monde sans doute, mais en tout cas aussi, d'abord, de ce qu'il vit lui. Une expérience d'harmonie entre ce désir du bien qui abrite, d'ailleurs, j'étais frappé, c'était parenthèse, vous avez perdu le début de la phrase, moi aussi, c'est normal. J'étais frappé, c'était en formation en communication non-violente, mais c'était pas vraiment ça, c'était justice restaurative. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé en Amérique du Sud, c'était le responsable mondial de la communication non-violente à l'époque. Bon, bref, mais il a travaillé dans des contextes de gang, dans les contextes de... Il disait, voyez le Christ là, à Rio de Janeiro, regardez ce qui se passe au-dessous c'est le bidonville. Au-dessous, c'est le bidonville avec des jeunes de 11 ans, de 15 ans qui ont des armes à la main. C'est la drogue, c'est tout ça. C'est là qu'il a travaillé. Et il dit, quand on se met à l'écoute de chaque être humain, notamment des chefs de gang, des chefs de réseaux mafieux, etc., mais tout le monde aspire au bien. Aucun va dire le contraire, parce que c'est ce qu'il habite, c'est ce qui nous habite chacun, même si... après, les chemins pour y arriver, c'est une chose. Mais je vois dans ce psaume cette harmonie entre ce désir du bien qui habite et ce que le texte porte. C'est comme ça que le psalmiste le décrit. Donc pour le psalmiste, c'est certainement pas que, ou c'est certainement pas de l'ordre du devoir, c'est bien davantage. Et en tout cas, je peux me permettre un témoignage personnel qu'il ne faut pas entendre, puisque c'est vrai pour moi, ça doit être vrai pour vous. Ce n'est pas ça mon intention. Je rends simplement témoignage que ce n'est pas non plus mon expérience de lecture. Alors oui, j'ai lu la Bible par devoir, et je continue parfois à exiger, à m'imposer un effort. C'est plus dur pour moi pour la prière, en fait. L'effort est plus grand côté prière que côté lecture. Mais ce n'est pas toujours spontané. J'y vais avec enthousiasme. Hein. Non, ce n'est pas toujours ça. Mais je peux témoigner que je suis aussi heureux de cet effort et de l'avoir fait. Je pense par exemple aux semaines, alors je ne sais pas trop, ou aux mois qui ont suivi le moment où j'ai rencontré le Seigneur. Et puis à un moment donné, à force d'entendre, il faut lire la Bible. Bon. Puis je n'arrivais pas à la lire. Je dis, bon, il faut quand même que je la lise au moins une fois. En entier. Et du coup, ben, je me suis dit, voilà, il y a tant de chapitres, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je me suis dit, voilà, ce que tu n'as pas lu, ben, tu prends 15 chapitres par jour pendant 2 semaines, et c'est bon. 15 chapitres par jour. Là, il y avait le Lévitique, le Deutéronome, il y avait le désert, là. Et il y avait les prophètes. Ouh. C'était exigeant, c'était désagréable. Mais quel profit. À quel profit, une fois cette lecture faite, d'avoir une espèce de panorama global de cette histoire. Juste ça, sans parler de dimensions spirituelles et autres, même si c'est aussi spirituel, j'imagine. Mais juste d'avoir un regard global sur la Bible. Ah oui, Moïse, il vient pas après Jésus. Enfin, voilà. Et Jonas, ah oui, d'accord, ok, je vois comment ça se passe. Une familiarité, juste ça. J'en suis reconnaissant et je vide cette familiarité aujourd'hui encore. Alors oui, ben oui, il y a des efforts à faire parfois. Mais j'ai envie de dire aussi, ne nous y trompons pas non plus, parce que moins nous avons l'habitude de faire cet effort, et plus c'est pénible. Et plus on vieillit, et plus c'est pénible de prendre une deuxième nature. Mais c'est vrai de tout. C'est vrai des gammes au piano. Enfin, c'est vrai du piano. On n'apprend pas le piano pour jouer des gammes. Enfin, j'espère, parce que sinon... Mais c'est pas toujours plaisant. Et puis, comme dans tout, un moment aussi où on trouve du plaisir. Il y a un moment où cet effort est devenu tellement mien qu'il est même plus présent comme effort, que je suis moi-même cet effort. Que cet effort, il me compose et qu'il correspond à moi-même. Je pense en vous parlant que je ne sais pas ce que vous allez me dire quand j'aurai terminé ma phrase, c'est pour ça que je souris. Mais il y avait une époque, en tout cas, quand j'ai commencé à prendre la parole en public, mais je parlais à peu près à cette vitesse et c'était peut-être un peu plus compliqué que maintenant. Alors peut-être que vous allez me dire, si, maintenant c'est compliqué aussi, d'accord. Mais c'était un effort, et c'était une gestion du débit qui n'allait pas de soi. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus fluide. Et puis pour ça, comme pour tout ce que nous apprenons, la joie peut être là. Et la joie peut être là de justement parce qu'on a cultivé cet effort et cette habitude. Alors à partir de là, que dire? Je voudrais vous proposer, je ne sais plus, 3-4 choses. Ah pardon, ça va un peu vite. Je voudrais dire un mot s'il y avait parmi nous des personnes plus extérieures à la foi chrétienne, et donc qui se sentiraient bien moins obligées, entre guillemets, de lire la Bible. Mais j'ai juste envie de dire, mais pourquoi ne pas la lire? Alors vous allez dire, pourquoi la lire? Okay. Bon. Mais pourquoi ne pas la lire? Juste si vous êtes intéressé au niveau culturel, si je puis dire, vous trouverez là la source de tout un tas de choses de notre histoire occidentale. Des œuvres d'art, vous aurez accès à ça, à des œuvres d'art, des poèmes, vous regardez le tableau, sinon vous dites, ça représente quoi? Aucune idée. Ça c'est vrai pour les tableaux non bibliques, pour moi, je regarde le tableau, bon ça ne me parle pas, je passe au suivant. Allez, si je reconnais le sacrifice d'Abraham, tout d'un coup ça me parle davantage. Bon, le tableau me plaît ou pas, mais ça c'est autre chose. Mais au moins je reconnais. Donc tout ce qui, une grosse partie de notre culture occidentale, au moins jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, elle est biblique. Si vous allez dans une... Alors évidemment, c'est des églises, mais maintenant, ça fait partie du patrimoine. Donc, après tout, hein, les journées du patrimoine, on va dans les églises. Très bien, mais voilà, pour reconnaître ce qui se passe sur un vitrail, eh ben, la Bible, ça aide. Mais plus que ça, je dirais, lire la Bible, c'est retrouver tous ces questionnements de l'être humain, tous ces cris qui nous habitent, tous ces soupirs qui sont les nôtres, et qui sont si facilement écartés de notre quotidien aujourd'hui. Parce que que dire à ça? Autant distraire les gens. Du pain et des jeux, des chaînes télé et des séries télé. Mais des questions du sens. Un peu. Il a dit on s'en fout, je dis ça pour l'enregistrement. Pas forcément, mais c'est difficile de l'étancher dans la société où on vit. Chacun rencontrera aussi dans la Bible une figure assez étonnante quand même, celle de Jésus de Nazareth. Qui fait écho à ces cris et qui est porté par ces cris, qui les porte. Et je dirais que la perspective biblique nous donnera à penser. Et puis, ne serait-ce que pour ça, vous aidera aussi sans doute à vous débarrasser de tout un tas d'idées biscornues que vous auriez à propos de la Bible ou de la foi chrétienne. Donc j'en appelle à la soif de sens. Mais je ne suis pas sur la bonne diapo, donc tant pis. C'est la diapo avec les questions, quoi, qui, etc. À s'écarter aussi des idées, des réponses toutes faites à propos de la Bible, quel soit le fait des méprisants, des moqueurs. Oh, la Bible, c'est plein de... Voilà, vous imaginez. Qui vous disent d'avance déjà comment il faut regarder la Bible, comment il faut la penser. Je le dis d'autant plus que j'ai tenu ce discours. J'avais déjà raconté, je crois. J'avais un ami qui lisait la Bible. Donc, on se prêtait des bouquins de science-fiction. Enfin, bref. Donc, et puis, il s'était mis à lire la Bible. Je m'étais moqué de lui, 15 ans, 16 ans. Je m'étais moqué de lui. Quelques années après, c'est moi qui lisais la Bible. Après, on a permuté les rôles. Donc, lire la Bible permettra juste de se rendre compte que tout un tas de choses qui sont dites, mais sont juste gratuites. Donc, j'encourage ceux qui sont de l'extérieur à lire la Bible. À ceux qui sont de l'intérieur, alors j'en appelle quand même, comme je l'ai déjà dit, au sens du devoir. La Bible, c'est le livre qui a nourri Jésus, qui était la colonne vertébrale de son histoire, de son enseignement, et se prétendre disciple de Jésus, et se distancer de la Bible, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça pose question. Une question de crédibilité, une question d'obéissance. Alors je dis ça de cette façon parce qu'il semble, c'est vrai, que certaines personnes ou certains tempéraments ont besoin qu'on leur donne des ordres ou ont besoin qu'on leur donne des coups de pied quelque part. Alors si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas mon style d'en donner, ce n'est pas ma façon spontanée de parler, mais entendez dans ce que je viens de dire une façon d'essayer de vous en donner un quand même. Mais à partir de ce témoignage du psaume 119, à partir de son ampleur, 176 versets, 176 phrases, j'en appelle à bien plus que ça. Donc j'en appelle à réinventer, à retrouver une écoute. Et j'ai envie de nous dire la même écoute que celle qui nous portait vers celui ou celle que notre cœur aime ou notre cœur a aimé à une époque. Quand nous l'écoutions, quand nous désirions l'écouter, quand il ne faisait pas comme la tapisserie, quoi. Je suis un peu brut de décoffrage. Là. Cette écoute qui, en fait, je veux dire simplement, qui fait souvent défaut dans notre vie quotidienne, parce que nous pensons déjà savoir tout de l'autre ou beaucoup de l'autre. Nous savons ce qu'il va faire, enfin, nous pensons savoir ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire avant même qu'il ait prononcé un mot. La parole n'est pas sur ma langue, sur sa langue que déjà, Seigneur, je la connais parfaitement. Je paraphrase le psaume 139. Citation d'un auteur indien. Deux personnes qui ont vécu longtemps ensemble ont l'une de l'autre des images qui les empêchent d'avoir des rapports réels. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas, mais je le sais. J'en appelle cette attention, à cette qualité d'attention qui nous ouvre à l'inattendu, et qui nous ouvre à l'insoupçonné, et tout d'un coup à dire « Tiens, il a dit ça. Tiens. J'ai failli ne pas l'entendre. » Alors j'en appelle de même avec la Bible. Témoignage, exemple personnel, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Quand j'ouvre la Bible, j'essaie de me donner une règle. J'ai beau l'avoir lu tant de fois, enfin peut-être pas des milliards de fois, certainement pas, je veux m'efforcer d'ouvrir la Bible aujourd'hui comme si je ne l'avais jamais ouverte. Je veux m'efforcer de lire ces paroles de Jésus, ces paroles des prophètes, ces paroles de tel livre biblique, comme si je les découvrais pour la première fois. Je ne sais pas de quoi parle le texte avant de le lire. Petite parenthèse, c'est d'autant plus facile avec le vieillissement. Mais c'est vrai, je constate. Et pour illustrer, enfin, c'est pas pour illustrer, pour dire. Alors, je lis un verset par jour, parce que c'est comme ça, et puis je travaille depuis le texte original, mais bon, ça, c'est mon problème. Mais j'étais dans Jean 20, verset 11, je crois. Bon, c'est la résurrection. Marie alla au sépulcre. Je dis, Marie laquelle? Parce que juste avant, on en mentionne plusieurs. Et du coup, quand on lit le texte, on dit, mais Marie, c'est laquelle? Je sais pas. Je sais pas. Évidemment, si j'avais lu la suite ou si j'avais eu en tête la suite, je le saurais déjà. Parce qu'en fait, mais ce matin, en lisant le texte, c'est pour ça que j'en parle, eh bien, c'est verset 18, Marie de Magdala. Ok, ça va. La question est levée, je comprends qu'on fasse le choix de traduction qu'on fait. Comme là. Bref, qu'est-ce qui se présente à moi avec cette parole que j'entends devant la parole qui m'est adressée? Qu'est-ce qui me se présente à moi? Pour moi, j'aime bien me dire, ben, je ne sais pas, et je vais essayer de l'entendre. Comme si je la lisais pour la première fois. J'en appelle à l'écoute. J'en appelle au soin. À ne pas bâcler ce temps de lecture. d'écoute, comme s'il s'agissait un peu là de s'acquitter d'une formalité, et non pas d'un moment où je m'efforce de donner le meilleur de mes faibles ressources qui me restent maintenant, peut-être si je suis en fin de journée, que la journée a été rude, si je lis en fin de journée, mais d'essayer pour le temps qui est là, même s'il va être très court, de me tenir juste présent, de me tenir juste attentif. Parce que ce n'est pas forcément la quantité, je crois, qui compte, mais parfois on n'a pas beaucoup de quantité, ça dépend de notre histoire, mais plutôt d'une qualité de présence à la Bible. Comme on cherche une qualité de présence à l'autre. À un moment, tiens, j'arrive, je suis fatigué du boulot, mais l'autre, qu'est-ce qu'il a vécu? Et tout d'un coup, c'est comme si je laissais de côté un peu ça, et puis je dis, et toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui? Je t'écoute. Alors peut-être pas très longtemps, parce que je suis fatigué, mais... Mais voilà, tu peux juste me dire l'important maintenant. Un soin comme on cherche à être attentif à la parole d'un proche ou d'un prochain qui compte pour nous. Et peut-être parfois, c'est l'exemple qui m'est venu, mais c'est plusieurs vous l'avez connu, c'est le soin et la difficulté d'écoute de quelqu'un dont l'élocution parfois rend la communication difficile. Et il faut se concentrer. Je pense à Christiane Druon, pour ceux qui l'ont connue, par exemple. En tout cas, pour moi, c'était difficile. Mais là encore, avec l'habitude, eh bien, c'était moins difficile. Ce soin que met le peintre lorsqu'il essaie de reproduire, de retoucher ce qu'il a devant les yeux. Et ce soin à l'écho du soin que prend le psalmiste pour ciseler ce long texte à propos de la Bible. 176 phrases, 176 versets, où il a utilisé déjà tout son dictionnaire des synonymes. Et je l'ai déjà dit une fois précédente, mais je le redis, il compose en fait 176 phrases en utilisant un procédé qui est complètement invisible en traduction, qui est impossible à reproduire, mais qui serait comme un équivalent de la rime, plus ou moins. On appelle ça l'acrostiche, mais bon, peu importe. Parce qu'en fait, donc voilà le texte hébreu, hein. Donc c'est les premiers versets. Et puis voilà les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et si vous regardez bien le texte, alors on lit de la droite vers la gauche, hein, attention. Vous remarquez que la première lettre qui est ici, elle est là. Donc vous remarquez ça. Donc ça fait, sur ces 176 phrases, il va prendre 8 fois chacune des 22 lettres de l'alphabet. Grosso modo, 8 lettres, 8 phrases qui commencent par un A, 8 phrases qui commencent par un B, etc., etc. Ayons du soin comme il a eu du soin pour ciseler sa description de la vie, de sa vie, de son orientation de vie et de son interaction avec la Bible. L'attention, le soin, j'en appelle à la curiosité. À la curiosité de celui qui soupçonne ou qui sait très bien combien peu il en sait et combien il y aura peut-être à découvrir. À cette curiosité qu'il a aussi nous habité lorsque nous découvrions cette personne de qui nous sommes tombés amoureux et peut-être on l'a épousée ou peut-être pas, ça arrive aussi, hein. Mais il y a quelque chose qui nous portait et qui nous faisait envie de la côtoyer. On la découvrait, puis elle nous charmait, et elle nous faisait nous interroger, et on désirait la fréquenter, et on ne comprenait même pas pourquoi on désirait la fréquenter. C'est drôle, hein ? C'est pas propre à la Bible, déjà dans des textes anciens attestent que c'est la démarche même de la philosophie à l'origine. La quête aimante de la sagesse. La philosophie, on dit, elle naît de l'étonnement. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? Qu'est-ce que c'est que vivre ? C'est quoi la justice ? Curiosité, donc par rapport à la Bible, je prends deux exemples. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand on lit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Alors, vous savez probablement tous, ou pas, ou presque, peu importe, que c'était une chandelle qu'on fixait sur les chaussures. Ok. Alors moi, j'ai envie de dire, mais qui a dit ça ? Vous le savez, enfin, vous pensez le savoir, ok, mais ça vient d'où ? Est-ce que l'information est fiable ? Est-ce que vous avez vu ? Enfin, voilà, est-ce que vous avez vu des traces archéologiques qui font... Est-ce que c'est vrai ? Ou c'est juste répété ? C'est ça, pour moi, l'enjeu est là. C'est la répétition. On pense savoir, et puis, qui a dit ça? Ça repose sur quoi? C'était comment supposons que c'est vrai, c'était comment d'avoir une lampe à ses pieds, là? Comme dans certains trucs à la télé, ne reproduisez pas l'expérience à la maison. Bon, et puis, si la Bible est bien ainsi, ça veut dire quoi pour nourrir ma vie d'aujourd'hui, si elle est là pour éclairer mon sentier? Donc j'en appelle à la curiosité à l'égard de la Bible, à l'égard de tous ces textes que parfois, si on est un chrétien depuis longtemps, on est capable de répéter, de réciter par cœur, sans forcément être capable de les expliquer. Ça veut dire quoi, j'aime bien, j'ai déjà cité cet exemple, ça veut dire quoi que l'Éternel met une table entre moi et mes adversaires? Ça veut dire quoi, ça? J'en appelle à la curiosité. À la curiosité à l'égard de ce que d'autres avant nous aussi ont découvert en lisant la Bible, ce qu'ils ont appris à sa lecture, ce qu'ils ont appris en la mettant en pratique. J'en appelle à une curiosité qui nous poussera aussi, donc à nous mettre en quête de tout ce qui peut nous aider à comprendre la Bible et à la vivre. Et j'y appelle d'autant plus, et ça va être la dernière chose que je voudrais dire, j'y appelle d'autant plus que je crois que si nous vivons ça, je crois que c'est l'influence d'hommes et de femmes, comme le psalmiste, craignant Dieu, attachés à sa parole, qui en tout cas pour moi m'ont donné goût de lire la Bible et à chercher à l'intégrer à mon histoire. Des hommes et des femmes qui m'ont aidé à penser, à croire, à voir que le message biblique n'était peut-être pas si ancien que ça, mais qu'il avait bien du sens, qu'il avait de la pertinence, et combien il faisait écho à ce que moi-même je portais. Cette soif du bien, cette soif de vie. Ce sont des hommes et des femmes, comme nous le sommes les uns avec les autres, qui m'ont aidé à voir la pertinence du texte biblique. Et ils m'ont aidé aussi, et j'y insiste, c'est pour ça que je parlais de répétition, à voir qu'il était possible aussi de dépasser un peu ces ennemis de la rencontre entre le texte et moi, que sont ce qu'on appelle les lieux communs, le discours convenu, le Seigneur est mon berger, puis on sait quand on va rendre visite aux malades à l'hôpital, il faut lui dire le Seigneur est mon berger. Très bien, ça dépend comment on le porte, c'est tout ce que je veux dire. Mais si on est là parce qu'il faut dire ça, parce que c'est ça qu'il faut attendre dans cette... C'est pas pareil. Si c'est répété tellement que ça n'a plus de saveur, que c'est simplement du politiquement ou de l'évangéliquement correct, ça va pas. Ça va pas, ça donne pas soif, ça donne pas envie. Combien m'a importé, en tout cas, pour lire la Bible, pour l'aimer, de voir des personnes en vivre, des personnes l'aimer. De voir des hommes et des femmes de la Bible. Et de les entendre, de les voir chacun un petit peu, à sa façon, à lui, incarner ce qu'il entendait de la Bible. Quand on se trouve habité, quand on n'est pas un simple répétiteur, un perroquet un peu mécanique, qui dit le verset qu'il faut au bon moment, avec ce risque d'être un peu fade, beaucoup fade, ou un peu terne, pour reprendre l'expression de Kierkegaard une fois précédente, des parleurs de Dieu, des récitateurs de leçons qui sont bien apprises, avec le nom du Seigneur et la bonne intonation au bon moment. Mais des hommes et des femmes plutôt qui sont habités de Dieu, des hommes et des femmes qui sont investis, qui sont animés, qui sont porteurs d'âme, qui sont vivants. Que ça fait du bien d'être au contact de personnes pour qui la Bible et la foi ne sonnent pas comme quelque chose de dévitalisé, d'anesthésié. Et je voudrais appeler chacun à chercher et à fréquenter des personnes qui nous tirent vers le haut. À dépasser aussi dans votre être vous-même cette espèce de répétition mécanique, mais à rentrer dans un corps à corps, dans un cœur à cœur avec le texte. Plutôt que, même si c'est bien de faire ça et que si on n'a pas le choix de faire plus que ça, ben c'est bien déjà de faire ça, mais plutôt que de s'en remettre uniquement aux commentaires tout faits du calendrier, on tourne la page et puis la méditation est faite, quelqu'un a mâché à notre place et on a juste à lire et puis c'est bon. Très bien si vous ne pouvez faire que ça, faites-le. J'en appelle à aller plus loin que ça, si vous le pouvez. Et plus que ça, je nous en appelle à tous à chercher à être quelqu'un qui, de par sa fréquentation et sa rencontre avec la Bible, avec le texte inspiré, devient petit à petit, ou de plus en plus, quelqu'un d'inspirant. J'y appelle d'autant plus que nous avons, en fait, potentiellement cet effet les uns sur les autres, ou bien d'être pour notre entourage de simples parleurs de Bible, un peu anonymes, avec une vie un peu détachée d'elle parfois, ou bien des personnes qui sont habitées de la crainte de Dieu, du respect de la parole de Dieu, et qui sont comme insufflées par elle. Et on n'a pas besoin d'être jeune pour ça. On est dans une communauté un peu vieillissante, enfin voilà, il y a moins de jeunes qui viennent en ce moment, enfin, voilà. Mais on n'a pas besoin d'être... Il y a quelque chose qui... L'âge ne joue pas là-dedans. Enfin, plus on est vieux, plus on a des chances d'avoir de la familiarité. Donc, voilà. Mais je dirais que cette présence biblique, cette présence de Dieu, elle est... A priori, elle se développe avec l'âge. Cet immense respect pour ce Dieu que la Bible... Alors c'est rigolo, que la Bible appelle le Dieu bienheureux. C'est 1 Timothée, chapitre 1. Donc j'en appelle à être des hommes et des femmes de ce calibre-là. De devenir petit à petit. Des motivateurs, des personnes qui sont exemples, juste par ce qu'ils sont et par ce qui se voit d'eux. J'ai terminé. Le psalmiste semble, en tout cas, c'est ce qui m'a touché dans le psaume, je me suis rendu compte que le psalmiste se présente bien comme ça, lui-même. Il se présente comme le premier ou un des premiers hommes et femmes qui vivent ça par l'ampleur de son témoignage et par l'attachement dont il témoigne. En tout cas, les mots qu'il prononce, moi, ils m'appellent dans ce sens. Donc, ma prière, c'est que son témoignage me nourrisse, nous nourrisse chacun et nous stimule dans le même sens. Que la parole du Christ, que la parole de Dieu, habite parmi nous, parmi vous, avec toute sa richesse. Amen. Ah, le président n'est plus là? Tu veux que je termine? Enfin, je ne sais pas si j'ai rien à dire. Vas-y.